Geoffrey Estienne et je suis vigneron à Boussac, dans le nord du département de la Creuse. Je suis agriculteur depuis une trentaine d'années maintenant et j'ai commencé ma carrière en plantant des myrtilles. J'ai créé les myrtilles du Trimoulet dans les années 90 avec un verger de 6 hectares. Et depuis 2017, je cultive une parcelle d'un hectare de vigne que je viens de compléter par une plantation supplémentaire de 3 hectares de vigne cette année. En 2024. Alors, cette petite exploitation viticole s'appelle le vin nu. Le vin nu, pourquoi ? Parce que il n'y a dans mes bouteilles de vin rien d'autre que du jus de raisin fermenté. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun additif. Il n'y a même pas de sulfite. Alors, c'est une vigne qui est certifiée bio. Je vais vous expliquer pourquoi c'est plutôt facile d'avoir cette vigne en bio par rapport à d'autres cultures. Et c'est une vinification, je fais des vins nature, certifiés nature. C'est-à-dire, je fais des vins comme on les a toujours fait. On fait de la vigne dans le monde depuis 8000 ans. On a commencé à faire du vin au pied du Caucase, en Géorgie, de l'autre côté de la mer Noire. Et voilà, bon, ça a beaucoup évolué. Et en fait, on peut dire que les vins chimiques, les vins conventionnels, n'ont que 60 années. Ils sont d'après-guerre. Les ingrédients massifs dans les vinifications, c'est assez récent. L'ajout de levure pour faire fermenter les sucres du raisin, c'est récent. Donc voilà, les vins nature, c'est pas une mode, c'est vraiment une production qui est plus que millénaire. Beethoven.
J'aimerais savoir pourquoi la Creuse, pourquoi s'installer ici, au sein de ce territoire.
Alors pourquoi s'installer en Creuse ? La première des bonnes raisons, parce que c'est le paradis sur Terre ici, probablement. J'ai la chance de voyager un petit peu avec mon métier ou mon métier précédent, et qui était agriculteur. Hein. Producteur de myrtilles, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup pour voir des plantations de myrtilles dans le monde. Et puis, récemment, j'ai voyagé beaucoup pour voir de la vigne dans le monde, comment on cultive la vigne. De l'Himalaya à l'Indonésie, au Chili, à l'Europe centrale. Et ça m'a aidé à choisir les variétés. Mais pour revenir à la Creuse, d'abord, c'est les terres familiales. J'ai fait mes études, comme beaucoup de gens, au lycée agricole d'Ahun. Et j'en suis très content. Alors, la Creuse n'avait pas vraiment de culture de vigne. Il y avait toujours quelques pieds de vigne sur les granges et sur les maisons. On en trouve dans le centre de la Creuse, même dans le sud de la Creuse, des variétés anciennes. Mais là, il y a un phénomène qui nous saute un petit peu aux yeux depuis une vingtaine d'années. Ça s'appelle le réchauffement climatique. Et jusqu'ici, la vigne ne pouvait pas être vraiment cultivée en Creuse parce qu'elle pouvait geler en hiver. Au-delà de moins 19, moins 20 degrés, en dessous de moins 20 degrés, la vigne meurt. Alors j'ai choisi des vignes résistantes, très résistantes, et au froid hivernal, et au froid printanier, et surtout aux maladies. Mais bon, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Les sols creusois, globalement, peuvent très bien porter de la vigne. Le climat creusois, je dirais au nord d'une ligne... d'une ligne bénévent aux anses, peuvent supporter de la vigne sans trop de problèmes. Dans le sud du département, il va falloir être très très vigilant par rapport à la date de maturité des raisins. Il y a des années où le raisin ne mûrira pas encore, mais ça viendra. Alors, choisir des variétés adaptées au département de la Creuse, je peux dire que plutôt j'ai choisi des variétés qui me correspondent et qui sont adaptées à ma façon dont je veux, à la façon dont je veux conduire la vigne. Je veux conduire une vigne qui soit épanouie et qui ne soit pas stressée, parce que je n'ai pas envie de me stresser. Ça suppose des variétés résistantes aux maladies. Vous savez, beaucoup de gens ont entendu parler de l'oïdium, du mildiou, des années très pluvieuses comme 2024. Il y a beaucoup de mildiou sur les tomates, les pommes de terre. Il y en a beaucoup sur la vigne partout en Europe. Mais on a des variétés résistantes. On a des variétés résistantes qui datent du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Des variétés qu'on a abandonnées, qu'on appelait des hybrides. Ces hybrides sont issus de Vitis riparia, Vitis labrusca, croisés avec Vitis vinifera. Vinifera, c'est la vigne romaine, la vigne méditerranéenne classique. Et Vitis labrusca et riparia sont des vignes américaines qui ont poussé dans les bois, c'est-à-dire avec les champignons, le mildiou, l'oïdium et le phylloxéra aussi. Si on utilise ces variétés-là, on aura beaucoup, beaucoup moins de sensibilité aux maladies. Et c'est le choix que j'ai fait ici. L'avenir de la vigne dans le monde, il y a deux voies. Soit on va réutiliser cette génétique ancienne de résistance, c'est-à-dire des plantes qui se sont adaptées au milieu et qui ont développé des résistances, soit on va faire des OGM. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont rien à faire de boire des OGM. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je milite pas du tout dans ce sens-là. Mais il va falloir trouver des solutions. On ne peut pas continuer à cultiver de la vigne malade. Aujourd'hui, la vigne, c'est 3% des surfaces agricoles en France. Mais ça mange 20% des produits phytosanitaires. Ça veut dire qu'en termes, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le pourquoi la Creuse. La Creuse, c'est un département qui est sauvage, qui n'est pas pollué. Ah, sauvage, il est domestiqué, mais il n'est pas pollué. On a une nature qui est exceptionnellement préservée. On ne peut pas implanter une culture qui va consommer beaucoup de produits phytosanitaires. Ça n'aurait pas de sens. En plus, les agriculteurs n'ont pas vraiment envie d'appliquer des produits phyto et les consommateurs n'ont pas envie d'en boire. Donc ça a du sens de cultiver des variétés résistantes. C'est valable pour la vigne, c'est valable pour beaucoup d'autres cultures. Alors là, on est devant un fossé où on voit le sol. Qui fait 30-40 cm de profondeur, ce qui est bien. Et dessous, on voit le sous-sol, la pierre. Ce qu'on voit, ce sont des schistes, c'est-à-dire des roches qui ont été compressées, des roches métamorphiques. Et en dessous, si on descend sous ces schistes, à partir de 4-5 mètres, on va tomber dans des granites. Voilà. Si on fait des vins sur ces schistes-là, les vins blancs sont très souvent assez minéraux, avec beaucoup de minéralité et de salinité. On va aller goûter des vins blancs, vous allez voir comme ils paraissent salés. Après, un vin blanc qui est salé, c'est formidable pour le producteur parce que ça vous donne envie d'en boire d'autres.
Hein. Ça donne soif, oui, c'est ça,
oui,
ça
va. Moi, j'aime bien les...
Ça, c'est une variété qui s'appelle le Souvigné Gris. Qui est une variété rosée, qui a une peau très très épaisse. Chez moi, ça fait la cuvée 6, une cuvée très très agréable. Là, oui, là, on est devant le Souvigné Gris, ça fait la cuvée 6. Ça, c'est un raisin qui a une peau assez épaisse, donc qui est très très résistant aux attaques de champignons et qui a une couleur mauve et qui fait un vin avec des notes de pamplemousse et d'agrumes. Juste à côté, là, on est devant une variété rouge, ça s'appelle le Castel, ça me fait la cuvée 5. Ça fait un vin très très dense avec des notes de cassis, de bourgeons de cassis, très très puissantes et souvent avec des fins de bouche qui sont un peu cacao, chocolat et épicées.
Comment est-ce qu'on obtient ces goûts, ces saveurs florales, fruitées, pamplemousse? Comment on arrive à ça?
Mais ça c'est propre aux cépages, c'est propre aux variétés. Regardez la diversité que vous avez dans les variétés de fraises. Vous avez des variétés qui sont très très proches de la fraise des bois, vous avez des variétés qui sont beaucoup plus classiques et je dirais un peu fadasses. Là on est devant une variété par exemple qui a des goûts de fraise des bois, une variété de raisin qui a des goûts de fraise des bois. qui est issu de vignes américaines, de vignes de croisement, d'hybridation en fait, de croisement avec des vignes américaines, vous avez l'impression de boire de la fraise des bois. Et c'est du raisin. Voilà.
Regardez, ça met l'eau à la bouche. Hein. Oui.
Regardez la taille des feuilles.
Ah ouais, waouh.
Vous voyez ça? C'est un gros panneau solaire. Hein.
C'est plus c'est gros énorme. Qu'est votre main. Hein.
C'est beaucoup plus gros que notre main. Il n'y a pas une tache de champignon. Ça respire la santé.
Ouais.
Et juste à côté, là, vous avez une autre variété, la variété Rayon d'Or qui fait la cuvée 7. Vous voyez, une feuille beaucoup, beaucoup plus petite, très, très dentelée. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de génétique de Vitis vinifera à l'intérieur. Ça va être un vin qui va être... qui va être à cheval entre le Chardonnay, le Viognier, le Chenin, peut-être un peu le Tressalier qu'on retrouve à 5%. Voilà, il est plus conforme à ce que les Français ont l'habitude de goûter. Juste après, là, vous voyez ces feuilles qui sont presque rondes avec des poils dessus, c'est on dirait du velours.
Ah
vous voyez,
oui.
Vous pouvez toucher.
Ouais, c'est différent.
C'est très très doux. Voilà. Ça goûte vraiment la fraise des bois. Et juste à côté, derrière, on a cette nouvelle plantation de 3 hectares. Là, vous avez des ceps de vignes qui font presque 80 cm de haut et qui ont été plantés au mois d'avril et nous sommes au mois de juillet. Donc ça pousse très très bien. Au fond, là-bas, on devine des cueilleurs de myrtilles. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est la parcelle derrière, c'est une parcelle de myrtille.
Donc si tout se passe bien, l'année prochaine, nous serions du vin de cette nouvelle plantation.
J'aimerais bien, ouais.
Si tout se passe bien.
Mais bon, j'ai 57 ans, j'ai pas que ça à faire d'attendre. Hein. Faut que ça envoie, quoi.
Bon, magnifique.
Voilà.
Maintenant, on a qu'à goûter les vins.
Ah ben, on peut aller goûter les vins.
Hein. Voici mon message. Cauchemar, fantômes et squelettes, les siffles des Osinois.
Ici c'est le caveau, c'est là que je fais goûter les vins. Donc on a une grande salle avec une table au milieu.
Waouh, ça sent bon.
Ça sent bon, vous trouvez? Ça sent le bois?
Le bois.
Oui, oui. Ouais.
Les bois fumés.
Le bois fumé. Sur des grandes étagères qu'on a fabriquées ici, je présente les vins. Au fond de la pièce, on a une grande table. Qui permet de goûter les vins près d'un petit laboratoire où j'ai un alambic, où j'ai mon matériel pour analyser les vins. Et ça me sert beaucoup à l'automne et en hiver. C'est là que je viens faire mes analyses. Voilà, c'est un grand espace. Ici, je peux accueillir une trentaine de personnes. Les mercredis matins, il y a entre 15 et 30 personnes qui viennent visiter et goûter les vins. C'est un pied de nez, c'est pour montrer que les maladies de la vigne depuis la fin du 19e siècle, c'est un gros gros problème pour la viticulture. Et c'est le problème numéro un des vignerons d'aujourd'hui, c'est ça, et le réchauffement climatique avec les gelées de printemps et les sécheresses en été.
Et on peut dire qu'on contemple quand même une esthétique art nouveau, donc c'est la preuve aussi qu'il y avait déjà ces questionnements autour de la vigne, la description de ces maladies, et ça c'est à Bergerac.
Oui, ça c'est une affiche qu'un copain antiquaire m'a trouvée et qui a été produite très probablement dans les années 30. Hein, oui, ça fait très très Art Nouveau. Et c'est pour... en fait, c'est la description des maladies de la vigne par les établissements Perdoux et Bergerac qui devaient très probablement vendre du soufre et du cuivre pour traiter les maladies de la vigne. And the colored girls go do 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 do.
Joe never once gave it away.
La première des choses quand à analyser avant de récolter le raisin, c'est déjà le goûter. Savoir s'il n'a pas de problème, s'il est en bonne santé, s'il n'a pas de goût de champignons, de goût parasite. La deuxième chose, c'est d'analyser le sucre. Combien il y a de sucre dans mon raisin? Est-ce qu'il est mûr pour faire du vin? Quel est le niveau d'acidité? Est-ce que l'acidité est tombée au profit de l'augmentation du sucre? Donc tout ça, ça s'analyse avec du matériel. Pendant la phase de vinification, on analyse en permanence la fermentation en mesurant le sucre qui reste dans le en fait, on mesure la densité. On mesure la densité du vin. Et puis, en fin de fermentation, on peut mesurer l'acidité totale, on peut mesurer l'alcool total obtenu, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut mesurer? On peut mesurer s'il y a eu des sulfites qui ont été du soufre qui a été ajouté pour protéger le raisin, ce qui n'est pas le cas chez moi. Et puis après, je fais compléter mes analyses par des analyses en laboratoire, par un laboratoire professionnel, qui ce sont des analyses qui me sont demandées par les organismes certificateurs pour les vins nature, par exemple.
Geoffrey, est-ce qu'on peut expliquer essayer d'expliquer, c'est quoi la différence entre vin nature, vin bio, oui. Vin à appellation protégée, il y a plein de labels, en fait.
Alors, il y a beaucoup de labels dans les produits alimentaires. On va sortir de tout ce qui est appellation d'origine, parce que ça donne une indication géographique. Donc, on n'est pas dans une histoire de géographie. Ici, la Creuse, on est en vin de France. On n'a pas d'appellation d'origine. Ça sous-entend qu'on peut choisir de faire ce qu'on veut. Si vous devenez une zone d'appellation d'origine, ça veut dire que vous allez pouvoir cultiver telle variété et pas telle autre pour pouvoir faire toujours le même vin.
Ah oui, parce que c'est contrôlé ou protégé.
Bien sûr. Mais c'est ce que certaines personnes attendent d'une appellation d'origine contrôlée, bourguignonne ou bordelaise. C'est d'avoir toujours du pinot, du chardonnay, etc., ou de la ligotée. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir toujours la même variété. Ce qui m'intéresse, c'est la créativité et de faire des choses différentes. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Pour revenir à votre question, quelle est la différence entre un vin conventionnel, un vin bio, un vin biodynamique, un vin naturel? Si, on a une petite affiche là dans le magasin qui nous montre tous les produits et les pratiques qui sont autorisées pour faire un vin conventionnel. Il y en a plusieurs dizaines de choses qu'on peut mettre dans le vin. C'est énorme. Dans le bio, c'est plus restrictif. Dans les vins bio, on peut mettre beaucoup moins de choses. Et il faut que ce soit, la plupart du temps, d'origine bio, pour ce qui est des levures, etc. En biodynamie, vous avez le droit à encore moins de choses. Vous avez le droit à de l'albumine d'œuf. Par exemple, ça, c'est pour faire les collages des vins. Vous avez le droit au SO2, à la bentonite, au charbon, à la microfiltration. Vous pouvez rajouter on voit saccharose, là. Vous pouvez rajouter du sucre pour augmenter le degré du vin. Dans les vins nature, vous avez droit qu'à un truc, vous voyez, anhydride sulfuré SO2, c'est un conservateur. Moi, j'ai pris le parti, là, je suis en bout de chaîne, les vins nus, il y a dans la bouteille de raisin, il n'y a qu'une grappe de raisin. SAINS, c'était un label de vin nature qui voulait dire sans additifs, intrants ni sulfites. Voilà. Moi, je fais pas partie de ce groupe-là. Je fais partie du label Vin Méthode Nature, qui est un label reconnu par les services de la répression des fraudes. On a un syndicat qui a 2 ans maintenant, avec des cotisations qui sont relativement importantes, qui permettent de se faire contrôler. On finance des processus de contrôle. Quelqu'un peut venir demain, prendre toutes mes bouteilles, les faire analyser pour voir ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est la crédibilité indispensable aux produits alimentaires de qualité. C'est être capable de prouver en permanence si votre produit est bio, s'il est nature ou pas. Just a perfect day. Drink sangria in the park.
And then later, when it gets dark, we go home.
Alors, il y a quelque chose qui est très très intéressant qui va se passer en 2024. C'est l'étiquetage obligatoire de la composition des vins. C'est une chose qu'on a dans tous les aliments. Vous achetez un paquet de gâteaux aujourd'hui, on va vous dire tous les ingrédients. Un paquet de nouilles, tout ce qu'il y a dedans. Et bien pour les vins, c'est la même chose. On devrait pouvoir lire sur l'étiquette toute la composition du vin. Or, et c'est encore l'exception viticole, et c'est la force du lobby viticole, la viticulture française a réussi à négocier un QR code à l'intérieur duquel on pourra voir la liste des ingrédients. Ça veut dire très clairement que si vous allez au restaurant et que vous avez acheté une bouteille de vin au restaurant et qu'il y a un QR code, il faudra avoir un décodeur à QR code pour savoir ce que vous êtes en train de boire. Pour moi, c'est un scandale. La liste des ingrédients, moi, il y a très longtemps que je la mets sur mes bouteilles. C'est simple, la liste des ingrédients. C'est raisin, amour et temps. Et c'est sur la première étiquette. Il n'y a pas de QR code. Il est temps que les consommateurs s'accaparent, enfin, prennent le relais et exigent de la transparence. Pour moi, un QR code, c'est pas une information, c'est un code. On doit être proactif et on doit afficher ce qu'on met dans un vin. On ne doit pas aller demander aux gens d'aller chercher l'information.
Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun.
On va goûter la cuvée 7 qui est très très minérale. On a parlé de salinité tout à l'heure.
Donc, ingrédients, raisin, amour et thon.
C'est ça.
C'est beau.
C'est simple, c'est clair, hein, la liste des ingrédients. Voilà. Voilà. Allez, on peut goûter. On trinque avant.
Oui.
Ah oui, la couleur, hein. C'est pas un vin blanc qui est très très clair. Hein. Vous avez vu, les vins blancs sont orange. Hein.
Ça fait penser presque au jus de pomme.
Au jus de pomme, oui, c'est sûr.
La couleur est jeune, bien jeune.
Les bouteilles sont fermées comme ça parce que s'il y a un peu de gaz dans la bouteille, les bouchons sont pas comme ça. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows. Comme c'est salé.
C'est bon, mais bien sec.
C'est super salé, hein. C'est très très salé.
C'est la minéralité que
c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer.
Et c'est grâce au sol, oui.
À cause du sol.
Oui.
Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling.
Je pense que le département de la Creuse a un très très gros potentiel de développement. D'abord parce que les terres, il va y avoir beaucoup de terres disponibles. Malheureusement, parce qu'on a une population agricole qui est âgée, il va y avoir des terres qui vont être libérées. En plus, c'est toujours très intéressant de diversifier les productions et de ne pas avoir toute sa production concentrée dans un seul type de produit. On a des terres qui sont globalement pas chères par rapport au reste du monde, par rapport au reste de la France, mais par rapport au reste du monde. Les terres françaises sont parmi les moins chères au monde, il faut le savoir. On a une terre préservée qui est pas chère, et historiquement, la Creuse a toujours été une terre d'accueil. On peut s'installer en culture de vigne avec une surface qui n'est pas nécessairement importante. Avec une petite surface, on doit pouvoir vivre de son métier. Alors les choix techniques des variétés et de conduite de la vie sont très très importants. Il faut bien réfléchir à son projet. En Creuse actuellement, il y a 5 à 6 nouveaux projets qui sont en route de plantation, de vinification et autour la plupart de cépages résistants.
Combien de temps il faut attendre, en fait, une fois planté la vigne, c'est, ouais. Comment c'est ces processus aussi des productions, des A à Z, jusqu'à la plantation à la bouteille, à la dégustation.
Alors, combien de temps il faut entre le moment où on décide de planter, on plante et on a du vin? Alors déjà, bien mûrir son projet, hein, le choix des variétés, le choix de son installation, ça c'est très très important pour pas avoir trop de problèmes par la suite. Il faut trouver un moyen de cultiver qui nous convienne. Si on se met dans des sols très très arides, qui craignent la sécheresse, il faut imaginer une solution pour donner à boire à la vigne la première année si on est en période de sécheresse. C'est trop dommage de voir une plantation grillée par la soif. Ici, j'ai eu la chance de planter en 2017 et c'était une année humide et chaude et humide. Donc j'ai eu des croissances très importantes de la vigne et j'ai pu vendanger l'année d'après, en 2018. Et j'ai fait 1800 litres de raisins la première année déjà. Je viens de replanter 3 hectares de vigne cette année en 2024. L'année chaude et humide, cet été est chaud et humide et j'ai des croissances qui sont magnifiques. Ça reprend un peu le profil de 2017. Peut-être que je ferai du vin avec ces nouvelles plantations l'année prochaine.
À suivre.
Alors, jusqu'ici, avec 1 hectare de vigne et beaucoup de variétés différentes, j'ai fait de très nombreuses cuvées de vins différents. Je n'ai pas eu le temps de faire vieillir le vin. C'est-à-dire qu'un vin qui est un raisin qui est cueilli, par exemple, au mois d'octobre, il va être vinifié jusqu'au mois de, par exemple, au mois de décembre. Il va être élevé jusqu'au mois de mars-avril et embouteillé à ce moment-là, parce que les gens veulent du vin. Ce sont des cépages assez aromatiques, fruités, floraux. Donc, on peut très très bien goûter ces vins très très jeunes. Bien sûr, ça m'intéresse de faire vieillir, mais pour l'instant, j'ai pas de stock. C'est pour ça que j'ai replanté un peu plus de vignes, c'est pour essayer de constituer un stock. Cette année, en 2024, nous sommes fin juillet, j'ai presque plus de vin. Je ne vais pas avoir assez de vin pour aller jusqu'au mois d'avril 2025. Donc il est urgent que les gens plantent de la vigne en Creuse. Les millésimes sont différents d'une année à l'autre, bien sûr. Depuis que je vinifie en 2018, j'ai eu une seule année un petit peu compliquée qui était 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 2021 en Creuse, on a fait du chauffage au mois de juillet. Il faisait très très froid, il pleuvait beaucoup. Bon, 2024, le printemps a été assez frais aussi. Ce n'est pas une année hyper chaude. Mais quand on regarde depuis la plantation, il y a eu 2018, 2019, 2020, 2022, 2023. Sur 6 années, il y a eu 5 années extrêmement chaudes et sèches. Donc ça fait des vins qui peuvent aller de 12 à 15 degrés d'alcool, 15% d'alcool. Heureusement, avec des variétés anciennes dont j'ai parlé tout à l'heure, les hybrides, on peut préserver l'acidité dans les vins. Et l'acidité, elle est nécessaire pour que le vin soit équilibré. Si vous avez un vin qui est fort en alcool au-delà de 13 degrés, s'il n'y a pas d'acidité, on s'ennuie, le vin est plat. Et en plus, ça saoule, voilà, c'est pas agréable. Alors, les vins nus chez moi, j'ai de nombreuses cuvées, c'est ça qui est amusant, c'est de faire des vins très très différents. La première des raisons, c'est parce qu'il y a plein de cépages différents, donc des goûts différents. Et puis, ça correspond aux gens. Il y a des gens qui aiment cette cuvée et d'autres pas. Donc, on trouvera toujours du vin à son goût. Je les ai toutes numérotées. J'ai la cuvée 0, la cuvée 1, la cuvée 2, enfin 2 et 3, assemblage de 2 cépages, la cuvée 4, etc., etc. Et chaque numéro correspond à un cépage. Je n'indique pas le nom de mes cépages, je ne trouve pas ça utile. Et ça me permet de faire des variations un peu comme on le fait en musique ou en parfumerie. On assemble différents composants. Chaque cépage est vinifié séparément. J'ai une cuve par variété de raisin. Et c'est seulement quand les vinifications sont finies, c'est-à-dire que la fermentation alcoolique et les fermentations malolactiques sont faites, que je décide d'assembler telle variété avec telle autre. C'est un moment très important parce que ça conditionne le futur vin. Une fois qu'on a fait l'assemblage, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, c'est un boulot qui est passionnant parce que c'est très très créatif. Il n'y a rien de répétitif. Les millésimes, donc les années climatiques, sont très différentes les unes des autres. Et les potentiels aromatiques des vins de ces cépages sont infinis. Il y en a qui goûtent la rose, il y en a qui goûtent la fraise, il y en a qui goûtent la myrtille, la mûre, la cerise, la prune. Il y a des arômes, il y a des notes florales de tubéreuse, il y a des notes de lys. J'ai une cuvée en 2024, la cuvée 8, le Léon Millot. Ça sent la fleur de lys au départ. Et puis, un petit peu après, on a la mûre et la myrtille qui arrivent. C'est un vin très très dense qui peut s'élever, qui pourrait être gardé 4 à 5 années. Voilà, il faut venir découvrir les vins. Moi, je fais des visites guidées tous les mercredis matins en juillet et en août à 10h30. Et ça fait depuis très longtemps que je fais ça. Je le fais en français, en anglais. C'est gratuit. Donc, on fait le tour de la vigne pendant une heure et demie, enfin comme on veut. Et puis ensuite, je fais goûter tous les vins disponibles. Et puis ensuite, les gens, ils en achètent ou pas. Et puis voilà, la semaine d'après, on recommence. À gauche, là-bas, on a les pierres jaumâtres. Enfin, voilà quoi, c'est le paradis.